explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainées, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Pour sa séance de réécoute du vendredi, Le Temps d'un bivouac a décidé de souffler le chaud et le froid cette semaine. Aujourd'hui, nous vous proposons dans une seule et même émission d'aller écouter le chant des dunes et le chant des icebergs. Pour le chant des dunes, nous serons en compagnie de Stéphane Douady, physicien au CNRS, et de Patrick De Wever, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et auteur de Voyage d'un grain de sable aux éditions EDP Sciences. Tous deux nous raconteront pourquoi et comment, dans des déserts de Chine, d'Amérique ou d'Afrique, des collines de sable se transforment en véritables instruments de musique, produisant un son assourdissant. Pour le chant des icebergs, nous serons en compagnie de l'explorateur Evrard Vandenboom. Avec une équipe de scientifiques, il est parti escalader les icebergs au large du Groenland. Nous verrons comment, à l'aide d'instruments spéciaux, ils ont recueilli les murmures de la glace. Et à 17h, comme tous les vendredis, nous retrouverons Anne Pastor pour un nouveau reportage de sa série Voyage en terre indigène, une histoire oubliée des peuples francophones. Mais pour l'heure, nous partons pour le désert, étudier le sable et écouter le chant des dunes avec Stéphane Douady et Patrick De Wever.
C'est bon ? J'y vais ? Ça tourne ? Alors, on a découvert le chant des dunes la première fois quand Pascal Hersen a descendu une dune à pied. Et voilà ce que ça donne. Après, on a passé l'après-midi à se rendre compte qu'il y a deux sons, un son de pied et un son d'avalanche.
Stéphane Douady, c'était vous perché sur une dune. Nous étions dans quel désert là ?
Désert du Maroc.
Désert du Maroc.
Côte atlantique.
Et avec vos pieds, vous déclenchiez ces drôles d'ondes sonores. Alors, il faut vraiment, je ne sais pas, pour les auditeurs, pour bien prendre la mesure de ce chant des dunes, si vous avez des enceintes avec des graves impressionnants, ça ressortira d'autant plus. C'est un phénomène décrit depuis longtemps par la littérature. Marco Polo, Charles Darwin, Guy de Maupassant aussi a fait une nouvelle dans ses contes de la Bécasse autour du chant des dunes. Marco Polo a écrit « Les sables qui chantent parfois remplissent l'air avec des sons de toutes sortes d'instruments de musique et aussi de bruits de tambours et de chocs des armes ». Ça évoque quoi pour vous le chant des dunes, Stéphane Douady ?
Effectivement, c'est d'abord que c'est difficile à décrire un son. C'est-à-dire que si on dit chant des dunes, on ne comprend pas. On a une dune, ça ne chante pas, ça ne fait pas de bruit. Après, quand on parle de chant, on a l'impression d'un chant vocal. Et effectivement, c'est un son qui peut prendre différentes formes. Ça peut être très vocal, ça peut être un « comme une voix, ou ça peut être très rugueux, comme « brrrr ». Et à ce moment-là, quand c'est rugueux, ben, selon l'époque qu'on a, on le compare au son qu'on connaît. Mmh. Et donc, à l'époque de Marco Polo, les sons rugueux, c'était le fracas des armes dans une bataille. Ce qu'on ne connaît plus, heureusement, maintenant. Maintenant, on le comparait au bruit d'un moteur.
Ouais. C'est une intensité, c'est un son qui est très puissant, qui est très fort.
Tout à fait, oui. C'est ça qui est le plus surprenant. C'est que moi, j'en avais déjà entendu avant des enregistrements, mais on entend juste un « bon, ben, c'est un bruit, quoi, comme un autre, on ne sait pas d'où ça vient. Et quand je l'ai entendu pour la première fois, c'était... C'est énorme, c'est 120 décibels, 110 décibels, et pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est le bruit d'un avion qui vous passe juste au-dessus, et 120 décibels, c'est le seuil de la douleur pour l'oreille. Et donc, en fait, moi je m'en suis rendu compte parce que j'ai mis l'oreille dans le sable pour écouter, savoir si le son était différent, et ça m'a fait mal à l'oreille. Donc on était vraiment dans ces zones.
Oui, donc c'est vraiment un son puissant. On vous en rediffuse un extrait de ce chant des dunes, mais imaginez que le son est un volume bien plus intense que ce que vous entendez là. Ça doit avoir presque un côté inquiétant, non ? En plein désert, de sentir ce son. On doit vibrer de tout son corps avec ces graves.
Oui, surtout qu'on ne sait pas d'où ça vient du tout. C'est ça qui est le plus magique. C'est vraiment un côté magique, dans le sens où on est baigné par un son qui est souvent de basse fréquence, comme ça. Ce qui fait qu'on ne sait pas d'où il vient. C'est-à-dire que la longueur d'onde du son est plus grande que la distance entre nos deux oreilles. Donc on ne peut pas déterminer d'où il vient. Il n'y a rien qui est autour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un troupeau de 4x4 qui déboule. Il n'y a pas un avion qui passe. Il n'y a rien pour nous donner l'indication d'où vient le son. Et en même temps, on sent que le sol vibre. Donc c'est vraiment très étrange.
Alors vous avez essayé de comprendre, d'expliquer ce phénomène qui était encore mal compris quand vous vous y êtes intéressé il y a une quinzaine d'années. Du coup, vous avez même ramené dans votre laboratoire des bouteilles et des bouteilles de sable. C'est facile de passer du sable du désert à la douane, Stéphane Bodhi ?
Officiellement, non. Ouais. Mais en bagage à main, et officieusement, ça passe.
Alors, vous en avez amené jusque dans ce studio, vous avez un sac en toile avec dedans du sable qui provient de
Doman,
quel désert ?
Sultanat d'Oman.
Ouais.
Et donc effectivement, c'est quand on a l'habitude de jouer, on a tous joué à la plage ou au bac à sable, et donc ça fait aucun bruit, enfin ça crisse un petit peu à la rigueur le gravier, et là c'est du sable qui est vraiment spécial parce qu'il fait du bruit.
Voilà. Donc là c'est vous secouez ce sac de sable en toile.
Donc là
et on entend des sortes de pouettes-pouettes avec ce...
Exactement, donc on peut vérifier qu'il n'y a pas de petit animal dedans.
Oui.
C'est pas un instrument d'enregistrement non plus. C'est vraiment du sable.
Et ouvrez-le, le sac, on voit à quoi ressemble ce sable musical que vous nous avez apporté.
Pour les spécialistes de sable, ça peut être intéressant à regarder.
Alors, à quoi ressemble-t-il ? Quelle couleur ?
Il est un peu gris, là.
Il est gris.
Il est un peu gris, mais si vous regardez, il est taille assez diverse. Il est taille très dispersée. Et si on regarde très finement, en fait, ce qu'il a spécial, c'est qu'il est très rond. C'est vraiment un des sables les plus arrondis que je connaisse. Et en même temps, il est de composition variée. C'est-à-dire que d'habitude, les grains ronds, c'est des grains de quartz, des grains de quartz qu'on roulait pendant longtemps, mais il n'y a plus que du quartz. Et là, il est varié et il est recouvert aussi d'un vernis qui est la glaçure du désert.
Alors, évidemment, on va plus tard dans cette émission essayer de comprendre ce qui rend ce sable sonore. Vous parliez de connaisseurs de sable. Je voudrais vous en faire écouter un et pas des moindres. Un scientifique explorateur qui s'est passionné pour les déserts, c'est Théodore Monod. Écoutez-le parler du sable.
Bon, alors ce sable, ça pose encore des problèmes, le sable. D'abord, d'où est-ce qu'il vient, ce sable ? Pourquoi il y en a tellement à certains endroits ? C'est une matière singulière, le sable. C'est beau, d'ailleurs. C'est beau à toutes les échelles. Pas seulement à cause de sa couleur. D'abord, du sable saharien, je vous le rappelle, c'est de la poussière de quartz. C'est de la poussière de silice, par conséquent. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un matériau noble. Et puis, les couleurs. Ce sable est généralement doré, peut devenir presque rougeâtre. Par endroits, il peut également être blanc, blanc pur. C'est plus rare. Mais enfin, c'est très très beau aussi, on dirait des dunes en sucre en poudre. C'est pas commun, d'ailleurs, le sable vraiment blanc à une forte échelle.
Théodore Monod, fin connaisseur de ce sable et de ses couleurs, de ses différents degrés de granulométrie. Patrick de Vever, il existe plein de sortes de sable.
Oui, parce que la définition du sable n'est pas, généralement pour nous, le sable, c'est le sable blanc de nos plages, c'est du quartz. Et en fait, la définition du sable, c'est une granulométrie, c'est-à-dire une taille de grains. Et donc, ça peut être des grains de quartz, mais ça peut être des grains de roches volcaniques, ça peut être, certains grains même sont faits de micro-organismes, certains grains sont faits de minéraux, comme à l'île de Groix, par exemple.
Ouais, sur l'île de Groix, on trouve du sable très rouge. C'est quoi ce sable ?
C'est un sable de couleur grenat,
ouais.
Parce qu'il est fait de grenat. Le grenat, c'est une pierre semi-précieuse, parce que dans les roches de l'île de Groix, il y a des grenats. Et donc la matrice est altérée, donc elle se transforme en argile et puis elle est emmenée par l'eau. Alors que les grains de grenat sont plus denses, résistent mieux et restent sur place.
Donc à Groix, c'est de la poudre de pierre semi-précieuse qu'on trouve sur les plages.
Voilà.
Alors
c'est protégé. Pas parce que c'est du grenat, c'est simplement pour des raisons géologiques, mais c'est protégé. Mais je répète, c'est pas à cause du grenat, parce que les grains sont tout petits. Si vous voulez faire plaisir à votre amie en lui offrant un collier de ça, elle sera un peu déçue, les grains sont beaucoup trop petits.
Très bien. Donc quand vous dites c'est protégé, c'est-à-dire qu'on ne se sert pas, on ne ramène pas des bouteilles entières de ce sable.
Voilà, c'est une réserve géologique, c'est comme il y a des réserves biologiques.
On trouve, alors par exemple, en Italie, aux Canaries, sur l'île de Santorin aussi, en Grèce, des plages de sable noir. D'où provient-il ce sable noir ?
C'est de la poussière volcanique, c'est de la cendre de volcanique, comme la lave est noire en général, la cendre peut être noire, mais il se peut qu'à côté elle soit rouge, là aussi c'est comme les couleurs dont Théodore Monod parlait tout à l'heure, la couleur jaune ou rouge ou ça dépend de l'oxydation du fer. Et il y a toujours du fer dans les roches, et donc quand ça s'oxyde, bah de noir, quand ça s'oxyde, ça peut devenir très rouge.
Et alors dans votre livre « Voyage d'un grain de sable » paru chez EDP Sciences, vous reproduisez quelques images qui proviennent du musée du sable, au Sable d'Olonne. Et là on s'aperçoit, mais y a vraiment, c'est des petits bijoux, c'est de la dentelle, il y a certains grains de sable. Là on a affaire à quoi? Ce sont des micro-squelettes,
des micro-organismes.
Des micro-organismes.
Et là on a mis des micro-organismes solides. Ouais. Ça veut dire solide, résistant, je veux dire. Parfois, ce sont des micro-organismes, c'est de la dentelle de roche en trois dimensions. Ce sont des petites diatomées. Ouais. C'est hyper, hyper délicat, mais ce n'est pas visible à l'œil nu. Mais néanmoins, ça fait une roche tout à fait blanche. Il y a même un sable particulier sur une plage aux États-Unis, ce sera peut-être le sable de demain, le sable que l'homme est en train de faire. C'est sur une plage qui est un ancien dépôt. Un dépôt de rejet humain, du verre cassé. Ça donne un sable très coloré parce que c'est devenu microscopique, mais ce sont d'anciennes bouteilles, d'anciens verres de couleurs différentes, et donc ça donne un sable très joli.
Oui, sable des petites perles rouges, vertes.
Rouges, vertes, blanches, bleues, etc.
De verre poli par l'érosion, le vent, l'eau. Je crois que c'est...
Ce sont des miettes de verre.
Ouais. C'est en Grèce que vous avez marché sur le sable qui vous a le plus ému, on pourrait dire, en tant que géologue.
On peut dire.
Pourquoi ?
Mais c'est un sable qui ressemble à un autre sable quand on marche dessus. Et puis quand on le regarde à la loupe, le géologue a toujours une loupe sur le soir et il regarde ce qu'il y a. Et je me suis aperçu que ce n'était que des squelettes de micro-organismes.
Ouais.
Ce n'était que cela. C'est-à-dire que je marchais sur un cimetière, quoi. Mais moi, je ne voyais pas le cimetière, je voyais la vie qui s'était manifestée avant le cimetière.
Y'a pas d'eau,
la neige qui fond là-bas,
ça c'est chaud,
arrêtons les débats,
là c'est chaud,
il frappe ici et là,
El Niño. Oh,
Jojoa et lieutenant Nicholson sur France Inter avec El Niño.
Nous étions deux amis, suivis de 8 spahis et de 4 chameaux avec leurs chameliers. Nous ne parlions plus, accablés de chaleur, de fatigue et desséchés de soif comme ce désert ardent. Soudain, un de nos hommes poussa une sorte de cri. Tous s'arrêtèrent et nous demeurâmes immobiles, surpris par un inexplicable phénomène connu des voyageurs en ces contrées perdues. Quelque part, près de nous, dans une direction indéterminée, un tambour battait, le mystérieux tambour des dunes. Le commandant interrompit le compteur. « Pardon, monsieur, mais ce tambour, qu'était-ce ?»« Je n'en sais rien. Personne ne sait. »
Mystérieux tambour des dunes, un extrait diffusé sur Arte. Alors, il existe même des légendes autour de ce chant des dunes, de ce vrombissement qui retentit parfois dans certains déserts. Vous, Stéphane Douady, c'est avec une approche plus cartésienne et presque sensuelle que vous avez décidé d'aborder la question. Avant d'entendre vos explications, je voudrais qu'on vous entende. Alors, vous êtes dans le désert, vous caressez les dunes et sans aucun instrument, vous avez juste vos oreilles et vos mains. Et voilà, vous commencez à expérimenter comment il faut s'y prendre pour faire vibrer la dune.
Alors, dans le sable qui chante, il y a deux seuils. Le premier seuil, il y a une quantité de sable qu'on pousse. Et donc, si je pousse 4 doigts... Et si ça sonne sans problème, 3 doigts. Deux doigts. Un doigt. Tout juste. Donc le seuil est entre 1 et 2 doigts. Et il y a aussi un seuil en vitesse. Donc si je vais trop lentement. Et là, si je passe juste le seuil. Si je vais plus vite, ça sonne plus aigu.
C'est intéressant parce qu'on se rend compte vraiment de toute la démarche du physicien qui uniquement a les oreilles ouvertes et la curiosité sur le monde. Je rappelle que vous êtes, enfin, je ne l'ai pas dit donc je le dis, vous êtes médaille d'argent du CNRS. Donc vous êtes un chercheur, je veux dire, reconnu. Hein. Vous n'êtes pas un rigolo qui s'amuse à patauger dans le bac à sable.
Ah mais si, il faut être rigolo en même temps.
Ben, voilà, mais il y a les deux. Il y a, à la fois juste cette curiosité d'enfant sur le monde qui vous entoure.
Et là aussi, en même temps, ce qui était intéressant, vous parliez de sensualité du son, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des collègues qui essayaient de faire le son en même temps. Et ça ne donnait pas du tout la même chose. Et ça m'a aussi posé la question, d'où vient l'expressivité du son et d'où vient le sens musical? Et donc on peut après explorer des choses dans ce genre-là. Donc effectivement, on a passé l'après-midi à jouer dans le sable, à essayer de faire tous les sons de toutes les manières possibles. Et la manière la plus simple, c'est de pousser le sable avec la main. Dans une phase d'avalanche.
Ouais.
Et là, on se rend compte que le son n'apparaît pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut en pousser suffisamment et suffisamment vite pour que ça sonne. Et là, ce son-là, ça, c'était au Maroc et ils sentent relativement bien. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit même de pousser 2 doigts pour que ça chante.
Alors, qu'est-ce que vous avez compris au final? Donc, on l'a dit, hein, vous avez ramené de ces sables, on en trouve dans différents déserts, en Chine, au Chili, dans le Sahara. Qu'est-ce que vous avez compris? Quel est le point commun de tous ces sables qui produisent ces sons?
Alors d'abord, j'ai essayé de trouver en fait une réponse à cette question en écoutant le son. C'est-à-dire que c'est ce que je dis, quand on va dans le désert, on a toujours une découverte qui vous change, c'est ce qu'on raconte. Et là, c'était vrai, ça m'a changé parce que ça m'a ouvert les oreilles.
Ouais.
Mais bon, en fait, ça n'a servi à rien. Malheureusement, ça ne m'a pas donné la réponse. Et en fait, j'ai dû effectivement regarder d'où venait le son. Et ce qu'on a trouvé, c'est que ce qu'il faut d'abord, c'est que les grains soient très ronds. C'est-à-dire si on prend des grains anguleux, ça ne marche pas très bien. Et ensuite, tous ces grains-là, ils ont la particularité d'être recouverts d'un vernis qu'on appelle la glaçure du désert. Et si on prend des grains ronds et qu'on les recouvre de cette glaçure du désert, on arrive à le faire chanter.
C'est-à-dire que vous avez suffisamment compris ce qui se passait pour être en mesure de rendre du sable, en tout cas, qui a un certain profil, de bien rond, de le rendre musical.
Alors d'abord, on a eu des problèmes, parce qu'on a ramené du sable du Maroc, avec tous les soucis qu'on peut avoir en ramenant des choses un peu en contrebande, et on la ramène à Paris, et il faisait comme moi en ce moment, c'est qu'il était en train de devenir aphone.
Oui.
Et alors du coup, ça, nous, c'était ennuyeux, parce qu'on était obligés de retourner au Maroc pour aller en chercher.
Oui.
Et en fait, on a réussi à trouver que... un matin, je me suis réveillé en me disant, mais c'est pas seulement... On pensait au début que c'était le climat, qu'il fallait qu'il soit au chaud, etc.
Mm-hmm.
En fait, c'est pas, ça suffit pas. Ce qui s'est rendu compte, c'est que quand on a le mal du pays, ce qui nous manque, c'est les amis, la famille. Et donc, je me suis réfléchi, qu'est-ce qu'il y a autour de ces dunes? Parce que toutes les dunes dans les déserts ne chantent pas. Et ce qu'il y a autour de ces dunes, c'est souvent des lacs de sel ou la proximité de la mer.
Patrick de Wever, d'où provient... tout le sable des déserts. Parce que si on prend juste le Sahara, ça n'a pas toujours été un désert. Il y a eu des périodes de l'histoire de la Terre où c'était une forêt dense, une végétation luxuriante. Comment on passe de forêt tropicale à du sable?
Les forêts, comme toute la vie d'ailleurs, s'installent, vit aux dépens de roches. Hein, ce sont les roches qui s'altèrent, qui donnent des sous-produits, on appelle ça généralement des argiles. Et les argiles, comme ça, dans l'eau troublée qu'on voit actuellement de toutes nos rivières avec les fortes pluies qu'il y a eu, nous montrent que les argiles sont emmenées.
Mmh.
Et les particules sont plus denses et donc ont tendance à rester sur place. Et non seulement celles qui sont plus denses, mais aussi certaines particules s'altèrent avec le temps. Et donc l'altération fait que même les grains solides deviennent de l'argile. L'argile est l'état normal d'une roche aux conditions de température et de pression de la surface de la Terre. Et puis il y a des roches qui résistent quand même beaucoup plus, qui ne s'altèrent pas, tel le quartz par exemple. Et donc ce quartz, lui, va rester sur place, il ne s'altère pas.
Ouais.
Ça peut nous faire des continents. Il y a eu des périodes de la Terre où on avait un continent qui allait de l'Oural à l'Ouest américain, un seul continent. Ce n'était que du sable parce que c'était extrêmement plat. Toutes les montagnes avaient été érodées.
Comment on le sait? Comment on a la certitude de ce paysage, a priori, qui peut être balayé par les vents? On sait que c'était du sable d'un bout à l'autre.
On sait que c'était du sable parce que ce sable, avec le temps, est devenu du grès.
C'est-à-dire qu'après avoir été, entre guillemets, disloqué, la roche peut se reformer, les grains de sable peuvent se recompacter sous forme de grès.
Ils sont soudés. On est à des échelles de temps, il y a des millions d'années qui séparent.
Mmh.
Et puis ce sable qui allait de l'Oural à l'Ouest américain, il y avait aussi dedans, j'ai dit que les roches s'altéraient. Dans toutes les roches, il y a du fer, on en a parlé tout à l'heure.
Mmh.
Eh bien, le fer... quand il est à l'état assez peu oxydé, il est soluble. Il est dans l'eau, il est emmené avec les argiles. Le fer, quand il s'oxyde, il devient un fer qu'on appelle ferrique. Et lui, est insoluble. Et lui, il précipite. Donc, du quartz blanc, plus du fer rouge, ça donne les grès rouges que l'on a. Le Château-Dieu, Königsbourg, la cathédrale de Strasbourg, Collonges-la-Rouge, etc. Eh bien, ce type de roche, on l'a de l'Oural jusqu'à l'ouest en Arizona. Et alors, comment on sait que c'était ça, que c'était plat? Parce que quand on regarde les structures de ce sable, on arrive à lire dans les couches que c'était une sédimentation de type deltaïque, et même pas deltaïque, mais quelque chose de beaucoup plus calme. Donc c'était très calme. De temps en temps, il y avait un orage, il y avait de l'eau, il y avait des cours d'eau qui étaient ce qu'on appelle en tresse, hein, ça montre bien comment c'était. Donc c'était une zone très paresseuse, très très plate, et ça a duré, ça, quelques millions d'années.
Patrick de Wever, votre livre s'intitule « Voyage d'un grain de sable ». Dans quelle mesure ça voyage vraiment un grain de sable? Entre le moment où il est produit, vous nous avez expliqué le mécanisme qui conduit à sa formation, une fois qu'il est grain de sable, il se déplace sur quel genre de distance?
Alors voyage, en fait, il y a un double sens à voyage. C'est voyage dans l'espace, mais aussi voyage dans le temps. Alors, voyage dans l'espace, peut-être c'est celui-là dont vous parliez, mais on a actuellement des montagnes, le Massif Central ou l'Ardenne, etc. La roche va s'altérer, et puis le sable, les argiles vont être emmenées, le sable vont se déplacer, donc d'abord ils sont sur les contreforts du Massif Central, et puis ils sont emmenés par des rivières, et par exemple au sud de Paris, il y avait, avant qu'il y ait la Seine et la Loire, il y avait un seul fleuve, et on a des traces de sable qui viennent du Massif Central, juste au sud de Paris, donc on sait qu'il y avait un seul fleuve qui se promenait là. Puis dans le fleuve, alors, dans les rivières, le grain de sable, il est encore jeune, il vient d'être érodé. Donc il a une forme irrégulière, on les appelle anguleux.
Mmh.
Et justement, ceux-là ne sont pas bons pour faire le bruit.
Il a dit
qu'il fallait que ce soit rond, des billes. Et donc quand ce grain de sable tout doucement est emmené en mer, et dans la mer, là il y a la houle qui joue, Donc le grain de sable va et vient.
Les auditeurs n'ont pas l'image, mais vous faites la danse du grain de sable qui roule au fond de l'eau très,
oui, c'est l'été,
très joliment.
Je fais les vagues.
Oui, c'est ça.
Et donc il est roulé, mais comme il est dans l'eau, il est roulé et il prend une forme ronde, lisse, à la différence des grains de sable du désert, qui eux aussi sont roulés, mais c'est à sec. Et donc il y a des petits chocs. Et donc l'extérieur de la particule, c'est pourquoi j'étais intéressé de savoir quel type de rond c'était. Il y a ceux qui sont dans la mer, on les appelle les émoussés luisants. On voit bien ce que ça veut dire, quand on les voit, ils sont luisants. Alors que ceux du sable sont des ronds mats. Celui du désert. Ils ont l'air mats parce que justement, il y a plein de petits chocs à l'extérieur.
Oh, island in the sun, will to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I hope the day will never come when I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun.
C'était Harry Belafonte, Island in the Sun, proposé par Djoubaka, le programmateur du temps d'un bivouac.
L'exploration scientifique, y a rien de plus lyrique, on étudie la vie de manière empirique.
Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé.
Après avoir mené des expéditions particulièrement dangereuses sur tous les continents et dans les coins les plus inhospitaliers de la planète, l'explorateur Evrard Vandenboom a décidé d'ajouter du sens aux sensations. Il a créé l'association Nature Évolution qui a pour but d'explorer et de protéger les derniers mondes perdus de la planète. Sa dernière grande expédition s'est déroulée au Groenland. Accompagné de scientifiques, il est parti escalader les icebergs et a recueilli les murmures de la glace.
C'est parti, Mister, bonne aventure, amuse-toi bien, profite.
Yes.
Fais attention à toi.
Vous aussi, amusez-vous bien.
Safety first et bon trip. Écoute bien la nature autour de toi.
Ressource-toi.
Ouais.
Salut, salut.
Evrard Vandenboom partant seul pour plusieurs jours sur une des dernières terres vierges du Groenland. C'était sur la calotte du Rhineland. Décrivez-nous cet endroit où vous étiez seul. Alors là, pour le coup, vous étiez seul pendant quelques jours.
En fait, c'est un territoire assez grand. Donc, le décrire en deux secondes, ça va pas être facile, mais ouais. Ça fait à peu près 100 km de diamètre, on va dire. C'est une sorte de patatoïde couverte de montagnes, de pics, de glaciers, de lacs. Il y a une calotte glaciaire qui couvre à peu près les deux tiers. Et puis, il y a une grande vallée qui découpe littéralement l'ensemble de cette péninsule, donc qui s'appelle le Rhineland. Une vallée qui, pour le moment, à l'époque, n'avait jamais été visitée parce que trop compliqué. Il y a des glaciers qui font un peu plus de 10, 12 kilomètres de long, qui sont, faut imaginer, des parois de pratiquement 1500 à 2000 mètres de dénivelé juste au-dessus, donc qui partent du lac et qui montent vers les sommets. Il y a énormément de sérac qui se jettent dans les lacs, etc. Donc c'est des coins où on peut pas vraiment se balader facilement. Nous, aujourd'hui, grâce à des tout petits engins, notamment on appelle ça des packrafts, c'est des petits bateaux qui sont gonflables et qui pèsent 2,5 kg une fois qu'ils sont repliés, et puis quand on peut se mettre dessus, pagayer, etc., ça permet d'accéder dans ces coins perdus. Ouais. Et puis c'est des moraines, beaucoup, beaucoup de moraines.
Alors, c'est quoi une moraine?
Une moraine, c'est ce qu'on trouve sur les côtés des glaciers, sur les fronts des glaciers. C'est tout ce qui est charrié par le glacier, donc des blocs, du sable, des graviers qui viennent se déposer et qui font des sortes de rainures comme ça, assez hautes, hein, qui peuvent parfois faire plusieurs dizaines de mètres de haut, et qui sont très instables, toujours très instables. Donc on se balade là-dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, et c'est un peu dangereux.
Mais en tout cas, ça avait l'air d'être absolument formidable et intense, ce que vous avez vécu là-bas pendant 2 mois.
Ouais. On a vraiment été une petite équipe là d'une 15-16 personnes sur le terrain, tantôt sur la toundra, tantôt sur les glaciers, tantôt sous l'eau. Et ça a été, ce que je disais tout à l'heure, d'une richesse incroyable, parce que d'une part, ce sont des paysages que moi je connaissais pas. Le côté arctique, l'ambiance arctique, c'est un truc qui m'a complètement frappé dès le départ. On a eu la chance d'arriver en bateau et il faut imaginer que là maintenant on a pris tous l'habitude de voyager en avion. Mais en bateau, ça a rien à voir. C'est beaucoup plus fort. Alors en plus, il y a dans ces eaux arctiques, il y a toujours une sorte de petit voile, on va appeler ça une sorte de léger brouillard de 20-30 mètres d'épaisseur, juste à la hauteur de l'eau. Donc quand on arrive en bateau, on est tout le temps dans un brouillard complet, jusqu'au moment où tout à coup, ça se découvre, on vient de rentrer dans le fjord, le soleil claque partout, les glaciers brillent dans tous les sens, et on voit des machins blancs là qui flottent partout. Et ces machins blancs, plus on s'approche, plus on s'aperçoit que ce sont des immeubles, des immeubles de glace. C'est d'une beauté vraiment incroyable. Et je dirais que ce qui moi m'a dépassé le plus, ce qui m'a frappé le plus, c'est pas les images, c'est les sons. Ouais. Parce que on a comme ça dans notre idée une idée de silence total en Arctique. C'est absolument pas le cas. Et notamment ces icebergs font un bruit en permanence. On a l'impression d'être dans une nuit d'orage tout le temps, que ce soit nuit et jour. Dès quand on prend le petit déj, il y a de l'orage quelque part. En fait, c'est pas de l'orage, il fait grand beau, mais il y a des icebergs qui se retournent, qui craquent, etc. C'est fantastique.
En plus, vous vouliez grimper, c'était un peu un rêve de gosse, vous vouliez grimper au sommet de l'un de ces icebergs. Alors c'était l'une de vos premières missions scientifiques d'ailleurs, qui consistait à aller écouter les icebergs en plantant des capteurs dessus. Mais pour approcher un iceberg, il faut y aller prudemment.
Tu vois les stries, tu vois, on voit quand tu regardes le flanc de l'iceberg devant nous là, on voit qu'il a quelques stries qui sont un peu inclinées. Donc il a déjà cassé et il a déjà un petit peu basculé certainement plusieurs fois. Et il y a toujours un risque, il pourrait se péter en deux là dans les 3 minutes, on n'en sait rien en fait.
Aïe aïe aïe, c'est super beau.
Too dangerous or what do you think?
What cool?
Ça a pas l'air d'être mort.
Je me dis que là, quel que soit l'iceberg, ça va faire des cracks.
Ça risque de craquer pareil. Je pense aussi. Je pense aussi.
On vient de l'entendre, hein, ce fameux craquement. C'est vrai que ça ressemble au tonnerre. Hein, cet iceberg qui tout d'un coup s'anime. Qu'est-ce qui produit ce bruit sourd? Il faut bien se représenter. Hein, vous êtes dans un petit bateau à moteur au pied de cet immeuble de glace, comme vous avez dit tout à l'heure. Et tout d'un coup, ça tonne.
Ouais, c'est vraiment une fracture, un peu comme un séisme. Hein, il faut imaginer une micro-plaque continentale, voilà, qui flotte et qui à un moment donné se dilate ou se contracte. Voilà, en l'occurrence, elle a plutôt tendance à se dilater parce qu'elle fond. Et du coup, ça fait à un moment une fissure et cette fissure se propage avec un bruit associé. Et ce bruit se propage non seulement dans la glace, mais il se propage aussi sur l'eau. Et ces fjords sont souvent des eaux très calmes, comme un lac le matin, quoi. Du coup, le son se propage très très vite et très loin. Et c'est assez fort. Surtout quand on est juste à côté. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'était ça. J'étais en train de m'approcher. Je pense qu'on était à 50 cm du mur de glace quand j'allais planter le premier piolet. Et là, ça a craqué. On est parti. Ça fait bizarre.
Vas-y, va à gauche. Tu vas jusqu'au bout du ruban, hein, voilà. Super. Encore. Stop.
Quand on a plein de capteurs, on va faire deux lignes comme ça en L. Là, bah, y a un capteur ici, on a déjà mis 6 sur cette ligne. Et tous les 10 mètres, on va faire un trou avec une broche et puis planter le géophone.
Tout est opérationnel, donc il n'y a plus qu'à l'installer. Et là-dedans, dans mes mains, visiblement, il y a une dizaine de géophones qui vont enregistrer les petites vibrations de ça. Quoi, cette ambiance, quoi.
Cette ambiance, Evrard Vandenbaum, arrivé au sommet de son iceberg. C'est un extrait de votre film documentaire très beau, Scoresby, les murmures de la glace. Scoresby, c'est cette région où vous étiez, hein, qui se trouve donc à l'est de la côte groenlandaise. C'est le plus grand fjord du monde. Et là, en l'occurrence, sur le toit de cet iceberg, avec vos géophones, cette sorte de micro pour enregistrer les vibrations de la glace, c'est ça ?
Y compris celles que nous, on ne peut pas entendre. Hein. C'est vraiment ça a une sensibilité extraordinaire, ces microphones, donc ces géophones. Du coup, on peut entendre des toutes petites fractures, des tout petits séismes. Et l'objectif était d'essayer de comprendre comment se fracture un iceberg, pourquoi, c'est-à-dire quel est le facteur qui le fait, le facteur principal, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui le font se fracturer, mais lequel est le plus prépondérant et à quel moment, est-ce que c'est tout le temps, est-ce que les fractures se font à l'extérieur de l'iceberg ou complètement au centre. Voilà, tout ça, ces géophones nous permettent de localiser ces sons.
Alors pour placer ces géophones, c'était le sismologue Éric Larose qui était à la manœuvre et qui était très impatient d'enregistrer ces sons avec ces appareils si particuliers.
Pour tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça résonne, comment le son va résonner dans l'iceberg, comme une cathédrale. C'est une cathédrale de glace qu'on a là. Et quand on tape dans une cathédrale, il y a un écho monstrueux pendant très longtemps. Et je pense que dans cet iceberg-là, on devrait pouvoir enregistrer la même chose. Quand ça va craquer à un endroit, ça va réverbérer, ça va résonner dans tout l'iceberg. Et ça, ce serait vraiment chouette de l'observer sur un iceberg. Ça, je crois que ça n'a jamais été fait. Et voilà.
Les voilà donc ces sons que vous avez enregistrés avec ces géophones. On a vraiment l'impression de pulsation. Ça donne presque un aspect vivant tout d'un coup à ce bloc de glace.
Ouais, et c'est en permanence. Et nous, on les entend pas. Donc on se balade là-dessus. On est un peu comme sur une plateforme flottante. Hein. Un iceberg, c'est rien d'autre qu'un bout de glacier qui s'est détaché et qui flotte. Mais du coup, à la surface, on a des petits ruisseaux, on a des petites flaques, on a des petits monticules, on a vraiment comme si on était à la surface d'un glacier, sauf qu'on est entouré d'eau. Et on se doute pas du tout que ça craquelle comme ça, sauf quand tout à coup, il y a une grosse déflagration, comme on a entendu tout à l'heure. Et là, pour le coup, on a l'air tout, tout petit, là.
C'est amusant comme lors de votre exploration, le son est très présent. C'est-à-dire que sous l'eau, vous utilisez des hydrophones. Lorsque vous êtes dans les cavités des glaciers, là encore, vous avez des appareils. Partout, vous avez essayé de capter des vibrations.
Ouais, parce qu'en fait aujourd'hui le son, c'est une on va dire une nouvelle méthode scientifique, hein, c'est-à-dire qu'on peut vraiment analyser énormément de choses ou déduire énormément de choses du son. Quand on disait tout à l'heure qu'on utilisait des hydrophones, nous par exemple, ce qu'on essayait de faire, c'était d'essayer de définir les paysages acoustiques sous-marins, et en l'occurrence. On va pouvoir, avec nos études et nos enregistrements, comparer à tout un tas d'autres études et d'autres enregistrements faits à travers toute la planète, définir qu'est-ce qui fait un écosystème en bonne santé, et du coup pouvoir comparer avec d'autres écosystèmes qui sont par exemple qui commencent à être dégradés, voire qui sont très dégradés. De pouvoir voir qu'est-ce qui est affecté dans le son.
Ah ouais.
Et à partir de ça, quand on va envoyer quelqu'un dans un coin de la planète, ça peut être sous les tropiques ou ailleurs, s'il enregistre un son et qu'il nous le ramène, on va pouvoir dire si cet écosystème est en bonne santé ou en mauvaise santé. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin dans un laps de temps, voilà, c'est pas tout de suite, ouais. Mais dans un moyen terme, on aura peut-être plus besoin d'aller faire une étude sur le terrain, de savoir combien d'espèces on a, etc. Rien qu'avec le son et les fréquences, on va pouvoir savoir justement quelle est la quantité d'espèces qu'on a, la concentration d'espèces, etc.
Un peu comme un médecin avec son stéthoscope qui vous écoute respirer, voit si ça se passe normalement. On aurait une idée du son normal que doit faire un écosystème en pleine santé.
Tout à fait.
Et d'un son un peu altéré.
Ouais.
Une mesure de la biodiversité.
Et ça se fait maintenant sur tout type d'écosystème. Là, nous, on l'a fait sous l'eau, on l'a fait donc évidemment sur les glaciers, mais là, c'était pas pour les écosystèmes, c'était pour essayer de comprendre la mécanique du glacier. Mais je sais que ça se fait aussi, par exemple, sur la canopée. Mmh. Il y a des gens qui viennent placer des micros, juste enregistrer la canopée. Mmh. Et puis, il y a d'ailleurs un scientifique qui a fait ça récemment, et il y a eu une exposition à Paris il y a quelques mois de ça, où il comparait, où il permettait aux visiteurs, comme vous et moi, d'écouter une forêt il y a 30 ans, et la même forêt 30 ans plus tard.
Mmh. Une différence.
Ah ouais, puis ça fout la chair de poule. Ouais,
le silence s'installe.
Ouais, exactement.
Vous êtes aussi parti étudier les glaciers lors de votre expédition au Groenland. Qu'est-ce que vous souhaitiez voir avec les glaciers?
Alors, nous, la principale recherche consistait à essayer de comprendre est-ce que l'eau de surface, donc les eaux de fonte qui sont liées bien sûr au réchauffement climatique, enfin qui sont liées à la température extérieure plus clairement, est-ce que cette eau de fonte et cette variation de débit qui dépend de la journée, de la nuit, etc., a un impact aussi sur la vitesse de déplacement du glacier et donc sur son écoulement et sur sa disparition, si je réduis un petit peu. Et voilà, donc en fait, on a fait ça grâce au son. On a pu comparer le débit de l'eau et la quantité de vibration ou de fracturation, on va appeler ça comme ça, que ce glacier générait. Et à partir de ça, on a pu savoir si plus il y a d'eau, plus il y a de fracturation, etc. Et il y a effectivement un lien très fort qui peut nous indiquer que plus il y a d'eau de fonte, plus le glacier bouge, c'est-à-dire plus il va vite, ce qui veut dire aussi que si la température augmente extérieurement, il y aura encore plus d'eau, et donc le glacier ira encore plus vite. C'est-à-dire que non seulement il fond plus, mais il va plus vite vers le bas.
Oui, donc il disparaît de plus en plus rapidement. Vous dites, on mesure sa vitesse, ça avance vite un glacier? C'est quoi l'ordre de grandeur de la vitesse d'avancement d'un glacier?
Oh, c'est plusieurs centaines de mètres par an, donc ça dépend des glaciers, hein. Il y a de tout. Mais si on prend certains glaciers d'Himalaya, ils peuvent faire jusqu'à 8 mètres par jour.
Ouais, ça va vite, hein, quand même, 8 mètres par jour, c'est un paysage en mouvement, vraiment.
Fou, c'est complètement fou. Au Groenland, bien sûr, c'est beaucoup plus lent, parce que voilà, ce sont des masses bien plus importantes, et sur des étendues, voilà, il y a moins de dénivelé, ça descend beaucoup moins. Mais ça progresse quand même de plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres par jour.
Canine qui chantait Saturday sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Donc arrivé en bas, donc l'eau bien sûr était froide. Hein. Voilà, je l'ai eu à 1 degré sur mon profondimètre. En fait, il y avait une grande faille qui descendait à entre 5 et 6 mètres, donc il y avait peu de profondeur. Et au fond de cette faille, il y avait du sable noir. Du sable noir qui était aussi pailleté. Et avec les remous de la cascade, toutes ces paillettes qui brillent s'envolaient comme une pluie d'étoiles. Et à cette profondeur, j'étais dans le calme. Bien sûr, on entendait beaucoup moins ce vacarme. Et j'avais l'impression de flotter parmi ces étoiles, parmi ces paillettes. C'était complètement fou, complètement fou.
Laurent Marie, apnéiste, il n'avait pas de bouteille. Là, il était en apnée quand il a fait cette plongée, ouais, Evra Vandenbroek.
Ah, oui, je confirme. oui, il est
dans une eau glacée. Il y a une sorte d'aspirateur au fond qui pourrait c'est l'entraîner ça. Au fond et il n'a pas de bouteille.
Non, il n'a pas de bouteille. Il est relié à moi par une corde à ce moment-là. Mais bon, moi, je le vois à peine. Il y a des remous terribles. Il y a un bruit assourdissant au fond de ce truc. Lui, sous l'eau, il a moins de bruit. Mais nous, en surface, on se fait arroser. Ouais, c'est assez spectaculaire comme ambiance. On va dire que c'est hostile, voilà.
Oui.
On est trempé. Et lui, il y tient une heure. Il a tenu une heure, je crois, dans l'eau.
Pas
en apnée, mais il a fait, je ne sais pas combien d'apnées pour tout ça. Mais à chaque fois, il reste 2-3 minutes sous l'eau sans aucun problème. Et il faut imaginer que l'apnée, c'est quelque chose qu'on peut faire chez nous dans nos eaux à 25, 26, 27 degrés. Mais là, à 1 degré, le corps consomme évidemment beaucoup plus de calories, donc a besoin de respirer beaucoup plus vite. Et pour autant, lui, il reste là-dedans, il est à l'aise. Il était comme un poisson dans l'eau, vraiment, c'était le cas de le dire.
Ah, mais il a l'air d'avoir vécu une expérience de sa vie. Il en a vécu d'autres, hein. Oui. Cet apnéiste qui est allé aussi en Antarctique regarder les baleines. Mais là, en l'occurrence...
Ouais, c'est spécial parce qu'on est complètement enfermé, en fait, dans ce trou. Déjà, on descend en rappel. Il avait jamais fait de rappel. C'était le premier rappel de sa vie. Il descend sur corde, et donc il avait ses crampons aux pieds, des palmes qui pendaient à son baudrier. Donc déjà, là, la scène était assez atypique. Et puis, il a fallu s'installer dans l'eau. C'est vraiment pas mal commode, quoi. Et là, il y a donc ce fameux bruit qui ne sort pas. Donc, ça résonne de partout. On n'arrive plus à se parler, même à un mètre. Et là, il bascule sous l'eau. Et dessous, c'est bleu, là encore, des couleurs complètement... C'est difficile à décrire parce que c'est vraiment des univers qu'on ne voit pas, qu'on voit rarement. Ouais, il a vécu quelque chose de fort, nous aussi à l'extérieur, mais lui, dessous, ça devait être incroyable.
C'est magique, incroyable. Là, on est à l'intérieur du glacier, on est sous le glacier. Là, il faut être prudent, il y a l'air d'avoir une petite dépression. On va vérifier que c'est pas un trou, qu'il n'y a pas de danger. Ça continue. Putain, ça continue, là, c'est majeur. Wouh ! Il y a une petite cavité encore, là. Ah, on s'en lasse pas, hein. Incroyable. Trop beau. Regarde la langue, là-dessus. T'as vu ? Là. C'est incroyable ce qu'on voit, c'est le palais des glaces. J'ai jamais vu des cristaux de glace aussi gros que ça. On retrouve des formes en hexagone, en cône. Ça, c'est des gobelets. Et c'est des gobelets plus gros que le pouce. Ils sont tous là, j'ai jamais vu ça.
Un nouvel extrait de votre film, Evrard Vandenbaum, les murmures de la glace. Là, c'est Éric Larose, qui est sismologue, qu'on entend, c'est comme un enfant dans un magasin de bonbons, là, il n'en revient pas, il y a des cavités, ça n'en finit plus, on ne s'en lasse pas, il y a des formidables formes, là, de cristaux, et on se retrouve sous le glacier. Faut pas être claustrophobe, hein, parce que là, c'est-à-dire qu'il y a des kilomètres cubes de glace qui sont au-dessus de sa tête.
Ouais, on avait quelques dizaines de mètres d'épaisseur de glace au-dessus, et puis il faut dire que ça bouge, hein, c'est-à-dire qu'on a dit dit tout à l'heure, les glaciers, ça bouge tout le temps, ouais, tout au long de la journée. Donc ça fait aussi des craquements terribles. Quand on est là-dessous, c'est pas rassurant du tout. Mais il faut imaginer que là, à cet endroit-là, ce qu'on vient d'entendre, c'était à l'exutoire du glacier, c'est-à-dire vraiment la partie la plus extrême, le bout du glacier, là où il fond, là où il disparaît, quoi. Ouais. Mais qu'à cet endroit-là, il y a toutes les eaux des 50 km, 60 km plus haut qui sont drainées dans plusieurs moulins, qui se rejoignent toutes en un collecteur, un endroit où il y a un débit monstrueux de flotte qui passe sous le glacier et qui sort du coup à un moment donné à l'air libre. Ouais. Et nous, on est rentrés dans cet exutoire-là, on a trouvé une petite galerie dans les environs et on a progressé comme ça sur peut-être 150 mètres, 200 mètres à l'intérieur du glacier, ouais. C'était incroyable. Avec des cristaux partout, ça brillait dans tous les sens.
Donc on comprend qu'à l'intérieur des glaciers, il y a ces rivières souterraines, un peu comme il y a des nappes phréatiques ou des rivières souterraines sous nos contrées. Dans la glace, tout ça se reconstitue. Alors ça doit se creuser bien plus rapidement, hein, ces creusements de galeries glace.
Ça se fait en l'espace d'une saison, ça peut se faire en plusieurs saisons, mais en général c'est une saison, puisque l'hiver, évidemment, il n'y a plus aucune fonte, il n'y a plus d'eau qui coule, et donc il n'y a plus non plus d'eau qui coule sous le glacier. Mais à un moment donné, l'eau qui fond à la surface, comme on l'a dit tout à l'heure, elle coule dans ces fameuses baignières, puis elle rentre dans le moulin. Mais il faut bien qu'elle sorte à un moment, sinon voilà, il y a forcément une sortie à cette eau. Et tout ça se rejoint à un moment donné sous le glacier. Il peut y avoir deux exutoires, c'est-à-dire deux grosses rivières qui sortent. Mais là, il y en avait qu'un, et c'est extraordinaire. Ça fait un bruit fantastique. Puis l'eau est pas du tout claire comme on l'imagine. En surface, l'eau, elle est limpide, elle est transparente, elle est magnifique. Mais une fois qu'elle a raclé le fond du glacier, au fond du glacier, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, il y a pas de rochers directement. Enfin, il peut y en avoir de temps en temps, mais souvent c'est plutôt des graviers, des sables, des alluvions, voilà, des argiles et autres. Et du coup, l'eau est complètement marron, ça charrie des gros blocs, c'est assez austère. Ouais. Et à quelques mètres de là, on rentre dans la glace, il y a plus un bruit. Que des petits cristaux qui brillent partout. On n'entend que nos crissements de crampons, de gants, etc. Oh, c'est génial, c'est vraiment un voyage.
Evrard Vandenbaum, explorer seul ou en groupe? Vous avez pratiqué les deux configurations, vous. Alors, est-ce qu'en expédition, les autres, ça peut être l'enfer?
Dans ces
conditions difficiles, parfois, ça va être un peu tendu.
Oui, ça arrive, bien entendu. Mais j'ai pas du tout la sensation de repartir avec des ennemis quand je pars voyager ou marcher, avec à la base des amis. C'est vraiment deux façons, je pense, d'envisager son voyage. Moi, je comprends complètement qu'on ait besoin de le faire seul. Moi, je le ressens de plus en plus aujourd'hui. À l'époque et même, enfin, je dirais que depuis que j'ai commencé à faire de la montagne ou des choses comme ça, j'ai toujours eu envie de partager, parce que pour moi seul c'était s'ennuyer, j'arrivais pas du tout à vivre la montagne ou à vivre les voyages seul. Ce qui me plaisait, c'était le partage, c'était de pouvoir discuter avec quelqu'un, de pouvoir comparer nos idées, nos avis, etc. Là, plus ça va, effectivement, plus j'ai envie d'essayer de tenter de voir ce que c'est que d'être tout seul, parce que je trouve qu'il y a une possibilité de ressentir les choses avec plus d'acuité. Voilà, on est vraiment dans un aspect beaucoup plus sensoriel. Ouais. Voilà, on n'est pas dans la discussion, on est purement dans la sensation. Ouais.
Et puis, vous nous avez dit aussi, il y a cette finalement, l'aspect vulnérable quand on est seul ne vous déplaît pas. Presque, vous le recherchez un peu.
Ouais, j'avoue que c'est quelque chose que j'avais découvert il y a quelques années dans l'Ouest américain, où je m'étais retrouvé face à un puma un jour, voilà, en balade du côté de comment ça s'appelait, Navajo Mountain, voilà. Mais ce moment-là m'avait frappé. J'avais pas réussi à l'analyser sur le moment, mais je m'aperçois maintenant que c'était cette sensation de vulnérabilité qui, au moment venu, ça j'en avais la chair de poule pendant 4 heures, et j'ai marché comme jamais j'avais marché jusqu'à être en sécurité dans ma voiture. Mais j'avoue qu'aujourd'hui je le recherche un petit peu. Ça veut pas dire que j'ai envie de me faire attaquer par un ours, hein. C'est juste cette sensation qui te pousse à être plus en harmonie. Je sais pas si l'harmonie c'est pas le bon terme, mais plus à l'écoute de ce qui se passe autour. Et du coup, on s'aperçoit de toutes petites choses. On fait plus attention aux petits insectes, on fait plus attention aux nuages qui passent, on fait plus attention à soi aussi, c'est-à-dire à l'énergie qu'on déploie. Est-ce qu'on est capable de tenir jusqu'au bout? Enfin, des choses que j'avoue que je m'étais jamais vraiment posées, des questions que je m'étais jamais posées avant à plusieurs.
Merci pour ce merveilleux spectacle.
La routine.
Merci à Anne-Sophie Ladonne qui réalise cette émission.